Histoire d'archives avec Jean-Christophe Labbatie. Jean-Christophe, bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, au programme de votre émission, qu'allez-vous nous proposer ?
Eh bien, je vais essayer de vous mettre en appétit en évoquant à ce micro notre dernière exposition qui a été inaugurée il y a peu quelques jours et qui est consacrée au repas. Alors, cette exposition porte pour titre en fait Repas des humbles, repas des riches, et elle couvre une période des Basses-Alpes qui va en gros de la fin du XVIIIe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle.
Et que mangeait-on à cette époque-là ?
Alors là, c'est toute la question est là, évidemment. C'est l'une des ambitions de cette exposition d'y répondre. Et je ne cacherai pas que la réponse est difficile à obtenir. Car tout d'abord, il y a évidemment, pour tout historien ou archiviste, un problème de source. En réalité, on a très peu d'éléments dans les archives, dans nos 11 kilomètres d'archives linéaires, comme vous le savez. On a très peu d'éléments qui permettent de répondre directement à cette question. On a bien des documents qui nous disent quelles étaient les productions locales, en particulier au XIXe et au XXe siècle. Les préfectures, ici comme ailleurs, répondaient à des enquêtes. Et on a effectivement des éléments. On a des éléments en particulier lors des périodes de guerre, puisque l'une des préoccupations des autorités en période de guerre, c'est évidemment la question du ravitaillement. Et donc, aussi bien pour la Première Guerre mondiale que pour la Seconde, il y a des documents qui livrent des informations sur ce sujet. Mais c'est souvent plutôt des questions de production. Or, on sait que produire n'est pas consommer. On peut produire, évidemment, telle chose ou telle autre chose, des céréales ou des légumes ou des fruits, mais ne pas les consommer sur place, les réserver à l'exportation. Donc là, déjà, c'était une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est évidemment de répondre à cette question qui est double, en fait, puisqu'il s'agit des repas des humbles et repas des riches. Alors, pour les repas des riches, c'est un peu plus facile. On bénéficie de sources que vous connaissez bien en réalité, par exemple les menus. Alors, ces menus de restaurants, de banquets, à l'occasion de festivités, sont évidemment une source très importante et je ne vous cacherai pas qu'effectivement, quand on lit, et à chaque fois qu'on lit ce genre de document, on a l'impression que le repas était pantagruélique, hein, c'est-à-dire que évidemment il y avait abondance de biens et que on imaginait donc que les convives mangeaient jusqu'à s'inquiéter et bien au-delà. En réalité, il faut, et c'est une des dimensions à prendre en compte, un repas, l'alimentation, ce n'est pas seulement se nourrir, c'est aussi obéir à une norme sociale, c'est aussi une façon de se distinguer, de se faire remarquer, de montrer qu'on n'est pas comme les autres. Voilà. Pour les humbles, c'est plus compliqué. Les humbles, à part les productions de froment, vous voyez, on imagine qu'ils mangeaient du pain, à part quelques petites mentions qu'on trouve grâce, par exemple, à des documents qu'on appelle des inventaires après décès, hein, qui livrent en fait les ustensiles d'une cuisine. Alors à partir des ustensiles, évidemment, on peut imaginer quels étaient les types de cuissons, mais ça donne évidemment une indication sur le type de cuisson, ça ne donne pas forcément une indication précise sur ce qui était consommé. Voilà, donc ça c'est une difficulté évidemment qu'il fallait dépasser. Autrement dit, cette exposition était une entreprise collective. En fait, nous avons travaillé à plusieurs pour faire des recherches. En particulier, nous avons bénéficié de l'apport d'Éric Fabre, qui est maître de conférence à l'Université d'Aix-Marseille sur le site de l'UIT de Digne, qui a consacré une très grande partie de ses travaux, puisque ça fait à peu près 10 ans maintenant qu'il travaille, qu'il dépouille des archives dans notre service. Il nous a fait évidemment bénéficier de toutes ces recherches. Et grâce à lui, on a pu effectivement répondre en grande partie à cette question.
Et est-ce que les tableaux qu'il pouvait y avoir à l'époque étaient représentatifs de ce qu'il mangeait ?
Alors voilà, oui, ça c'est effectivement, on a effectivement une autre source, hein, qui est les sources iconographiques, en particulier les tableaux. Le musée Gassendi d'ailleurs nous a prêté deux tableaux, hein, deux intérieurs de cuisine, où on a effectivement un dispositif, hein, qui est classique, la cheminée d'un côté, donc c'était le mode le plus ancien, avec la crémaillère, hein, tout simplement, et puis ce qu'on appelle le potager. Alors le potager est une... un type de cuisson très particulier où on n'utilise en fait que les braises. Donc c'est en général construit contre le foyer parce, pour faire bénéficier le potager de l'évacuation des fumées, puisque c'est construit vraiment contre un mur. Hein. Et donc c'est une cuisson à partir des braises hein, qui dégage très peu de fumée et très peu de goudron. Donc une cuisson lente. Hein. On pouvait faire mijoter des plats. Donc là déjà, c'est un vrai progrès par rapport au premier type de cuisson, qui était un type de cuisson plus rapide. Alors après, il y a eu d'autres systèmes, hein, les systèmes intermédiaires, le trépied, hein, qui était en fait une version un petit peu améliorée de la cheminée, hein, où on localise plus le feu. Et puis ensuite, après le potager, on est passé au poêle, en particulier au fameux poêle trèfle, qui ressemble à un trèfle, qui avait une double fonction, puisqu'elle ce poêle servait, donc il est en fonte. Il se développe à partir de la fin du 19e siècle et il servait à, non seulement à faire la cuisine, mais évidemment à chauffer la maison, hein, ce qui était d'ailleurs la vocation d'une cheminée aussi. Voilà, donc on a ça on peut effectivement le voir sur les tableaux. Vous avez raison. On a, et puis les ustensiles aussi, hein, qui sont évidemment posés, et on a une idée de ce qu'on utilisait. Mais pour répondre toujours à votre question, à votre première question qui est très compliquée, qu'est-ce qu'on mettait dans les pots ? Voilà, et ça, c'est une vraie difficulté. Autre difficulté, c'est que on ne peut pas résumer le département. Alors, on a défini nous comme territoire la Haute-Provence. Mais la Haute-Provence, entre Bannon et Digne, je sais pas, jusqu'à Hanotte, oui, par exemple, on ne consomme pas forcément les mêmes produits. On n'a pas les mêmes productions locales. On n'a pas forcément les mêmes usages. On n'a pas les mêmes influences. Et on s'aperçoit en fait en travaillant le sujet qu'on a en réalité une cuisine qui est plutôt alpine que provençale. C'est ce qu'on constate. Évidemment, ce sujet-là évolue dans le temps, puisque là, je vous ai dit qu'on partait de la fin du XVIIIe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle. Évidemment, on ne peut pas comparer la situation du XVIIIe, de la Révolution, hein, pour faire simple, à celle du début du XXe. Il y a eu évidemment des progrès, comme je l'ai dit déjà, dans la manière, dans la cuisson des aliments, mais il y a eu aussi évidemment des introductions de nouvelles pratiques alimentaires, en particulier la pomme de terre, hein, qui vraiment se développe à partir de la fin du XIXe siècle, et pas avant, hein, contrairement à l'image qu'on a Parmentier, XVIIIe siècle. En fait, la pomme de terre se développe réellement à partir de la fin du XIXe siècle et elle rentre en fait dans ce qu'on consommait en général quand on était plutôt du mauvais côté social, hein, du côté des humbles, on mangeait beaucoup de bouillies en fait, et donc on mangeait des bouillies à base de pain. Et on mangeait aussi des bouillies à base de pommes de terre, etc., dans lesquelles on mettait, quand on était un peu plus riche, ou le dimanche, on mettait un petit morceau de viande, vous voyez, pour donner un peu plus de goût et pour avoir un apport supplémentaire.
Quand vous parliez de nourriture, d'alimentation plus alpine, c'est au niveau des laitages ?
Alors, en fait, on consomme assez peu de laitages, en réalité. En fait, la base alimentaire, hein, on va dire jusqu'au début du XXe siècle, c'est le pain. Enfin, ce sont les céréales. Hein, voilà. Après, c'est la forme du pain, évidemment. C'est la forme de la bouillie. Ça, c'est vraiment la base. Hein. Et d'ailleurs, les historiens ne s'y trompent pas. Quand ils étudient, en fait, les productions, les consommations, on commence d'abord par le froment. C'est vraiment... le froment qui est la céréale noble, hein, qui fait du pain blanc, mais on étudie le froment, le seigle, etc., etc. C'est quand même la base. On est vraiment... Hein, je rappelle toujours le pain.
Le pain noir, c'est pas une utopie. Enfin, c'est pas une.
Alors, le pain noir, d'après Eric Fabre, qui a fait une conférence mardi soir, le pain noir, en fait, était une consommation domestique, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'était les habitants eux-mêmes qui fabriquaient, quand ils fabriquaient leur pain, faisaient du pain noir. Ce pain noir, d'après les exemples qu'il nous a proposés, n'était pas commercialisé. En revanche, il y avait un pain bis, hein, un mélange, hein, qui était fait à partir de métail. Donc le métail, c'est le mélange, hein, au sens propre, un peu de froment, puis un peu d'autre chose, souvent du seigle. Voilà, on faisait un pain, le fameux pain bis, hein, de deux origines. Voilà. Ça, ce n'est pas... Mais il semblerait quand même que c'était quand même le pain blanc qui dominait déjà au 19e, vraiment. On avait vraiment, même sans doute peut-être la fin du XVIIIe siècle, donc on avait déjà, de ce point de vue-là, une production importante de froment, des importations évidemment aussi via Marseille, hein, des pays de l'Est, en fait, hein, et de l'Ukraine en particulier. Mais on était plutôt dans cette problématique-là. Mais il faut faire attention, car le pain qu'on consommait n'est pas le pain qu'on consomme aujourd'hui. La céréale, les céréales n'étaient pas exactement les mêmes. Il y avait donc, c'était la tuzelle qui était la variété qui était consommée, qui n'est même pas celle qui est importée. Et puis, le pain, en fait, vous savez, le pain, c'est simple, hein, c'est quoi ? C'est la farine, c'est de l'eau.
Du levain.
Du levain et ?
Du sel.
Et du sel. Or, pendant très longtemps, on ne mettait pas de sel, car on était dans un pays de gabelle, où la gabelle était forte, c'était un impôt, hein, je me rappelle, sur le sel. Et donc le sel était plutôt rare, très cher. Et donc on a mangé du pain sous l'Ancien Régime sans sel. Et cette habitude de consommation a duré une grande partie du 19e siècle. Dans les descriptions qu'on a de la fabrication du pain, il est bien indiqué qu'on ne mettait pas de sel, parce que le sel était un produit cher. Et puis, à partir de 1850, 1860, hein, il est impossible de fixer une date évidemment précise, on introduit du sel, et donc là, on a effectivement un pain qui ressemble un peu à notre pain. Et sur les images, parce que vous parliez tout à l'heure de représentation des tableaux, mais il y a aussi les photographies, on voit le pain. Vous voyez, on a l'impression quand même d'un pain assez compact, hein, peu aéré, hein, qui devait bien tenir au corps, mais il faut toujours penser, hein, ce que je vous disais, c'est que souvent, il était râpé, vous voyez, Le pain était un peu dur et on le râpait, on le mettait dans la soupe pour faire des bouillies, vous voyez. Donc c'était pas forcément consommé comme des tranches de pain, vous voyez. Hein, voilà. Il faut toujours faire attention. On a une très belle image qui est sans doute fin 19e, début 20e. On a des hommes, hein, qui sont assis, qui font face à l'objectif photographique. Ils sont bien habillés, vous voyez. Et ils ont en fait trois produits sur la table. On est à la fin du repas, vraisemblablement. Le pain, qui est en premier plan. Du vin. Rouge, hein, dans des verres, et puis des fruits, dont on ne sait pas vraiment desquels il s'agit. Moi, je pense à des pommes, certains me disent que ce sont peut-être des poires. Voilà. Hein, mais donc, fin de repas, vous voyez, fin 19e, début 20e. Et vous voyez, souvent sur les images, hein, on a une autre image qui est intéressante, qui est une image reconstituée des filles de la bourgeoisie qui jouent au repas, vous voyez. Donc elles se sont déguisées un petit peu en bohémiennes, vous voyez, hein, l'image que ça peut représenter. Et au premier plan, hein, c'est, alors il y a le chaudron, hein, qui cuit, évidemment, l'image un peu, voilà. Mais au premier plan, on voit une femme qui coupe du pain, vous savez, qui tient le pain sous son bras, et voilà, et qui vraiment donne des grands coups de, voilà, l'image un peu classique qu'on a d'un gros pain, vous voyez.
Et pour les fruits, à l'époque, vous parliez des pommes de terre, le tubercule, les fruits, il y avait toutes les variétés qu'on peut trouver actuellement.
Alors, ça, c'est une difficulté. En fait, on ne sait pas les variétés qui étaient... c'est tout le problème. Vous voyez, c'est d'un point de vue... quand on a les inventaires, on ne vous dit pas de quel fruit il s'agit. On vous dit... Enfin, on vous dit c'est une pomme, une poire, etc. Mais on ne vous dit pas de quelle variété elle était. Vous voyez, donc ça, c'est aussi une grande difficulté. La question a été posée à Eric Favre mardi soir, savoir de quelle variété... quelle variété il évoque, en fait, c'est une question, une réponse quasiment impossible à donner. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un sujet passionnant. On a essayé de montrer aussi, dans cette exposition, non seulement la question des produits, hein, mais aussi la question des pratiques alimentaires. C'est-à-dire, où mange-t-on ? Comment mange-t-on ? Voilà. Et ça, c'est aussi un sujet intéressant. Tout à l'heure, vous voyez, à table, il n'y avait que des hommes, vous voyez. C'est un repas un peu guindé, hein, mais on a une très belle photographie aussi du début du 20e. On a une grande tablée d'hommes avec une pièce montée au milieu. Ce ne sont que des hommes, hein, vous voyez. Ils sont au moins 30 à, hein, manger, sans doute. Alors, je ne sais pas, ça doit être dans le cadre d'associatif, j'imagine, associatif, vous voyez. Et évidemment, servi par des femmes, vous voyez. On a aussi cette économie domestique, hein, qui sépare bien les activités des hommes et des femmes. Et évidemment, les femmes sont les cuisinières, hein, c'est la cuisine ordinaire, hein, celle du ménage. Et les hommes qui, eux, évidemment, par leur travail, apportent la prospérité à la maison et qui, quand ils rentrent à leur domicile, eh bien, s'assoient à table, vous voyez, et sont servis par les femmes. Je ne sais pas si vous avez des exemples comme ça dans certaines familles, hein, mais moi, j'ai un souvenir comme ça familial. Alors, évidemment, il n'est pas basalpin, mais il était sans doute assez commun. J'avais une grand-mère qui, quand les hommes mangeaient, restaient debout et servaient les hommes. Vous voyez, c'était vraiment parce que c'était l'habitude, vous voyez. Hein, on est dans un système social, une organisation familiale qui est évidemment très différente de la nôtre, qui s'explique par le contexte de l'époque et par les valeurs qui étaient partagées. Voilà, donc il y a aussi ces questions-là qui sont abordées. On aborde, par exemple, ce qu'on appelle donc le repas du quotidien, c'est-à-dire en fait qu'est-ce qu'on mange ordinairement, comment cela se passe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en réalité, quand on cuit, par exemple, on fait une bouillie, vous voyez, quand on cuit quelque chose, on peut, par exemple, faire une sorte de soupe, mettre des légumes à l'intérieur, mettre un peu de viande. Mais ce qui est important, c'est qu'on ne mange pas tout en même temps. Vous voyez, la soupe va servir, par exemple, pour le soir, le bouillon va servir pour le soir. Les légumes vont être grillés. Oui, et la viande sera mangée à part, hein, et pas forcément au même repas, et peut-être froide. Vous voyez, donc avec de la moutarde, parce que la moutarde, c'est une constante. On a quasiment toujours de la moutarde. Hein, les historiens de l'alimentation nous disent que la moutarde a toujours été sur les tables. Alors on ne sait pas de quand, depuis quand, mais ça, c'est vraiment un des éléments qui reste constant. Il y a d'autres, effectivement, d'autres choses qui disparaissent avec au fil du temps. Ça, c'est la première chose. Il y a aussi un idéal qui est celui du croustillant. Tout le monde souhaite, que ce soit les riches ou les pauvres, avoir une nourriture qui peut être croustillante. Alors là, il y a une différence vraiment sociale. Pour le pauvre, le croustillant, et ça vous allez tout de suite comprendre, c'est ce qui accroche à la poêle. Vous voyez, quand on grille quelque chose, hein, c'est ce qu'on gratte au fond de la poêle et qui fait les délices des consommateurs.
Avec tous les sucres.
Et voilà, exactement. Ah oui, vous avez tout, là, c'est vraiment... tout est concentré, en fait. Hein. Ça, c'est le croustillant des pauvres. Le croustillant des riches, lui, en fait, il est sur le plat. C'est le gratin. Ouais, parce qu'il faut un four, il faut aussi avoir... Alors, on parlait de l'étage, hein, vous voyez. Il faut faire une sauce à base de lait, etc. Et donc, ça, c'est ce qu'on met dessus, hein, tous les plats gratinés. Et ça, c'est le croustillant du riche. Et le croustillant, l'idéal du croustillant, a trouvé... son plat, c'est la frite. La frite, les frites, parce qu'on ne mange pas qu'une frite, les frites, c'est évidemment le summum du croustillant, hein, d'où leur succès, d'où d'ailleurs le fait que les frites ont remplacé un peu partout en France d'ailleurs, et à Paris comme ailleurs, ont remplacé ce qu'on vendait dans la rue à l'époque, qui était le repas rapide, vous voyez, pris dans la rue, qui était la tripe. On mangeait des tripes. Hein, la tripe, c'est vraiment la chose la plus banale qui soit depuis le XVIe siècle, peut-être même le XVe. Il y avait des vendeuses, c'était des femmes, hein, des vendeuses de tripes qui étaient posées comme ça, qui se posaient dans les rues, au carrefour, etc. Et qui proposaient donc aux passants des tripes. Eh bien, ces tripes disparaissent, chassées par les frites. Parce que la frite, c'est le croustillant idéal. Et la frite a été rendue possible par deux phénomènes, évidemment. Un, la pomme de terre, hein, qui est... Évidemment, on comprend pourquoi. Et la deuxième chose, l'huile. Car l'une des grandes difficultés de l'époque, c'était la question de l'huile. En fait, dans les cuisines provençales ou alpines, on utilisait assez peu d'huile. Il y avait de l'huile. Hein. Ça, on le voit, hein. Huile de l'huile d'olive, de l'huile de noix. Mais en réalité, on faisait surtout une cuisine au sein doux. C'était vraiment le gras, c'est le sein doux. Et donc, le sein doux, on n'avait pas des quantités considérables pour pouvoir faire des fritures. Voyez. Et donc, c'est quand on a commencé à importer de l'huile. Alors, vous voyez, l'histoire est assez intéressante. Par Marseille, des huiles coloniales, en fait, hein, des huiles d'Afrique ou des huiles coloniales, qu'on a pu donc avoir une abondance d'huile. Et pourquoi a-t-on importé de l'huile à Marseille? Pour faire du savon. En fait, c'est parce qu'on a fait du savon de manière industrielle à partir des huiles africaines, que cette huile est rentrée en France et a permis...
Donc on mange des frites grâce au savon.
Eh bien exactement, vous voyez, c'est un peu raccourci évidemment, hein, c'est un peu caricatural ce que j'ai, mais c'est un peu ça. Vous voyez, en fait, c'est merci le savon de Marseille pour les frites. Voilà. Après, je ne suis pas sûr que d'un point de vue de l'équilibre alimentaire, ce soit toujours un... Voilà. Mais étonnamment, mais ça se comprend... Cette frite qui aurait dû s'imposer à Marseille, vous voyez, puisqu'on avait l'huile. En fait, c'est plutôt le Nord, vous voyez, hein, parce que c'est la pomme de terre. Hein, c'est évidemment le produit hein, qui est d'abord le plus important, mais cette huile a permis ce mode de cuisson particulier qui est le frit. Hein, alors, je parle des frites, évidemment, mais ce n'est pas que les frites, hein, c'est évidemment le frit. Alors là, ça y est, on avait atteint le nirvana grâce à la friture. Enfin, le croustillant pouvait vraiment devenir une norme, alors qu'avant, c'était plutôt, vous voyez, limité, hein, le fond du plat ou le dessus du plat.
Et est-ce qu'il y avait des aliments qui étaient communs aux humbles et aux riches?
Alors oui, oui et non. Évidemment, alors ça c'est en réalité, quand on regarde, vous voyez, les fameux menus que j'évoquais tout à l'heure, les menus de restaurants, de banquets, on s'aperçoit qu'il y a quoi en fait? En fait, il y a des protéines, vraiment. Oui. Il y a des protéines animales, en plus, et qui sont soit poissons, soit la viande. En réalité, l'abondance, c'est la viande ou le poisson, hein, secondairement. Et quand on regarde les menus, on a effectivement des plats de poisson et des plats de viande. C'est ça vraiment qui fait la différence. Le pauvre, lui, mange très peu de viande. En fait, c'est vraiment à partir de la fin du XIXe siècle, dans les milieux paysans les plus aisés, qu'on a de la viande. Hein, la poule au pot est un mythe, en fait. Hein, c'est vraiment... Alors, il y a de la volaille, hein, évidemment. Hein, mais c'est vraiment... et parmi les viandes, vous avez raison, la préférée, c'était le mouton. Alors, quand on dit mouton, et là, Eric Fabre l'a bien montré, c'est un mouton plutôt maigrelet, parce que, en fait, le mouton, ça sert à tout, sauf à manger. En fait, on mange les animaux, quels qu'ils soient, quand ils arrivent en fin de cycle de vie. C'est-à-dire qu'en gros, quand ils ne servent plus à rien, hein, c'est-à-dire quand ils ne peuvent plus tirer l'arrière ou la charrue, quand ils... oui, hein, c'est vraiment ça. Donc, ça veut dire qu'on a des animaux qui sont un peu, des viandes un peu dures, qui sont très maigres, et on essaie donc de rapidement les engraisser, mais ce n'est pas très efficace, pour les vendre en boucherie. En fait, on consommait essentiellement du mouton, hein, donc c'était la viande préférée, hein, comme le dit Rick Fabre, mais le vrai signe social, c'est le bœuf. Hein, c'est vraiment... c'est le beefsteak, en fait. Hein. Rappelons-nous quand même que... Vous voyez, je parlais tout à l'heure du pain. Un homme qui travaillait, il gagnait son pain.
Oui. L'expression est toujours donnée.
Gagner son pain. Puis après, gagner son beefsteak. Oui. On est passé du pain au beefsteak. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il gagne, hein, mais parce que, évidemment, tout ça a changé.
La croûte.
Voilà, mais... il casse la croûte. Oui. Mais, c'est, voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire. Hein, c'est vraiment... On est passé du pain... À l'idéal, le beefsteak. La viande bovine a d'abord été le summum de la viande, et c'est d'ailleurs toujours vrai, hein, dans les grands restaurants, pour les riches. Et après, évidemment, ça s'est démocratisé. Hein, je vais le dire un peu simplement, après la Deuxième Guerre mondiale, en fait, hein, avec les Trente Glorieuses, où là, le beefsteak frite, hein, c'est vraiment... Vous voyez, on a les deux, vous voyez. Ce plat réunit, en fait, ce que je expliquais tout à l'heure, les frites, donc le croustillant, et le beefsteak, qui est vraiment la marque de la réussite sociale. Vous voyez, c'est ça. Donc ça, c'est une évolution qu'on constate, effectivement. Hein, on voit des boucheries, hein, qui s'installent. Les boucheries d'Ancien Régime, c'est du commun, vous voyez. C'est du mouton, éventuellement un peu de porc, hein, mais...
Et puis à l'époque, il n'y avait pas les chambres réfrigérées comme à l'heure actuelle.
Oui, alors c'était en plus, vous imaginez, les problèmes de conservation, d'où les salaisons avec le porc, hein, évidemment, hein, qui était la façon de conserver les aliments. Vous voyez, le porc, c'est un sujet intéressant aussi. Le porc, il existe. Évidemment, il y a des porcs. Il y en a au 17e, il y en a au 18e, mais il n'en a pas tant que ça. Je travaille en ce moment pour préparer une conférence à l'Escale, que je ferai... mercredi la semaine prochaine, justement, donc j'ai un peu regardé les archives de l'Escale, et je regardais donc un compte qui avait été fait, un recensement de tous les animaux, le cheptel en fait de l'Escale, et quand on regarde, il y a très peu de chevaux, évidemment, et je crois qu'au total il y a 7 chevaux, au tournant 18e, 19e, hein, il y a beaucoup de moutons. Quelques chèvres, pas tant que ça, et quelques porcs, mais tout le foyer n'ont pas des porcs. Hein, l'image un peu, vous voyez, l'image d'Épinal, hein, où chaque foyer paysan a son porc qu'il tue en décembre, hein, pour préparer les salaisons, hein, les pâtés, etc. C'est vrai plutôt dans les années 30, 40, hormis la guerre, évidemment, hein. Les années 50, hein, c'est pas tellement, c'est pas encore vrai. Et pourquoi ? Parce que le porc, c'est la pomme de terre. Le porc, sa consommation est totalement liée à la pomme de terre. C'est à partir du moment où la pomme de terre se développe qu'on a vraiment beaucoup plus de porc. Oui, c'est vraiment voilà. Donc, alors je pourrais multiplier les exemples. Hein, je sais pas. Mais oui, c'est pour vous dire que les choses ne sont pas linéaires et qui pourraient nous paraître évident, comme effectivement le pâté, vous voyez, la chose la plus simple qui soit, les saucissons, tout ce qui se mange en porc, évidemment. Eh bien, en fait, c'est comme je disais tout à l'heure, hein, la viande, c'est vraiment à partir de la fin du XIXe siècle où les plus riches ont de la viande, parce que par ailleurs. Le porc qui est élevé, est-ce qu'il est consommé par la maison ? C'est aussi l'une des questions. Est-ce qu'il ne rentre pas dans un circuit commercial ? Vous voyez, c'est une autre question. Je fais une petite parenthèse, une incise. Je m'intéresse parallèlement à la taille des habitants du département sur la période révolution jusqu'au... à peu près la même période, hein, jusque dans les années 30-40. Pourquoi ? Parce que, en fait, il y a un lien évident entre la taille et l'alimentation. Je n'ai pas besoin de l'expliquer, je crois que tout le monde l'a compris, à la fois l'apport protéinique, mais aussi les vitamines et les minéraux. Très important, hein, c'est même peut-être le plus important. Car l'apport en protéines, on va dire qu'il est correct, hein, il est suffisant. En revanche, hein, et on le sait avec les maladies qu'on constate, le goitre en particulier, qu'il y a des carences hein, du côté des vitamines, du côté des minéraux. Voilà. Eh bien, quand on lit un petit peu la documentation, les études qui ont été faites sur cette question-là en France, eh bien, on constate que, dans certains cas, la taille diminue, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On imaginerait que c'est linéaire, vous voyez, que la taille augmente, puisqu'il y a un progrès permanent, etc. Eh bien, on constate que, dans certaines régions, quand ces régions rentrent dans un circuit commercial plus large que la région elle-même, c'est-à-dire en fait sont intégrées dans un tissu commercial extra-local, eh bien que la taille diminue. Pourquoi ? Parce que la production locale, en fait, va servir à alimenter ce commerce et au détriment, évidemment, des habitants qui vivaient plus ou moins dans ce que j'appelle, moi, une autarcie relative. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait des importations, des exportations, évidemment, mais c'était sur la marge, vous voyez. Eh bien, on constate qu'il y a des... que la taille... Alors, on le fait à partir de la taille des conscrits. Évidemment, c'est la seule qu'on a, hein, donc les soldats. Eh bien, on constate qu'il y a des diminutions. Vous voyez, pour vous dire que les choses ne sont jamais simples. Hein, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'une culture se développe ou une production se développe que pour autant, ça amène la prospérité, que c'est un signe de prospérité pour la masse. Et ça peut bénéficier évidemment à quelques commerçants, etc., mais ce n'est pas forcément profitable pour tout le monde. Voilà, donc c'est un des sujets. Alors, je vais parler du repas du quotidien. Vous m'avez posé la question sur les produits. Il ne faut pas oublier les produits exotiques, le café et le chocolat. Oui. On consomme évidemment de plus en plus du café et du chocolat. Je regardais un document concerne Sisteron, un petit carnet de notes, vous savez, où la personne notait ce qu'elle achetait, hein, ses dépenses en fait. Hein. Eh bien, on voit que le café est une consommation normale. Mais ça, on le savait depuis longtemps. En réalité, au XVIIIe siècle à Paris, le café est une boisson ordinaire. Il y a des vendeurs de café partout dans les rues. Et c'est vraiment. Et pourtant, c'est un produit exotique, hein, vous voyez, qui vient de loin. Donc, c'est, voilà, donc, le chocolat, c'est la même chose. Hein. Le chocolat, on voit qu'effectivement, il y a consommation de chocolat. Sans doute du côté des plus aisés, hein, sans doute pas. Mais il ne faut pas penser que les gens humbles ne mangeaient pas des choses forcément.
Basique,
oui. Il y avait des occasions particulières, comme par exemple les repas de fête, hein, Noël, les mariages. Hein, je ne sais plus quel chroniqueur du département dit que les Bas-Alpins sont vraiment pas raisonnables parce qu'ils ne mangent rien du tout pendant un certain temps pour faire justement des fêtes où il y a une abondance. Hein, on veut monter la prospérité de la maison et donc on y met beaucoup de moyens et puis après se serre la ceinture pendant 15 jours parce qu'il n'y a plus d'argent pour acheter à manger. Vous voyez, donc il y a, hein, ce que je disais tout à l'heure, le repas c'est aussi une occasion de se réunir, une fête familiale, une fête villageoise. C'est aussi une façon de montrer qui on est et penser que ces repas, hein, c'est un peu comme certains repas liés par exemple à la religion, hein, les repas de communion. Ce sont des repas qui commencent à une heure et qui terminent le soir. Oui, hein, en fait, on mange toute la journée. Donc, on a le temps de manger beaucoup de choses, évidemment.
Et est-ce que vous voyez au fil du temps une diminution de participants quand il y a des repas de village comme ça?
Alors, non, pas vraiment. Non, ça, on constate au contraire. Enfin, vous savez, les communautés villageoises ont toujours eu un rôle très important. Enfin, sous l'Ancien Régime, alors évidemment sous l'égide du seigneur ou du curé, hein, mais avec la Révolution, où là, on a une administration communale qui se met en place. Non, moi, je prends un exemple d'un village du département où on constate qu'en fait chaque l'objectif du village était de s'embellir, vous voyez, d'avoir une belle école, d'avoir un beau pont, vous voyez, de construire un pont, parce que voilà. Et donc à chaque fois qu'il y avait une construction qui était faite, on faisait un petit tableau. Ils avaient commandé à un peintre qui s'appelle Patriti le petit tableau. Et puis, on faisait une fête, vous voyez. Alors, dans cette fête, on nous dit un peu ce qu'on mangeait, hein, soupe, vin, évidemment, il y a du vin. Alors, on produit du vin, il ne faut pas l'oublier, hein, il y a du vin dans le département. On produit du vin, alors évidemment, plutôt...
dans le sud, oui.
Oui, où on voit bien les zones. Mais le vin est important. Et alors, sans doute un vin pas très bonne qualité, hein, une piquette, sans doute, des vins qu'on gardait pas très longtemps, qui tournaient sans doute au vinaigre assez rapidement. Mais on a des petits vins, vous voyez. Le vin est quand même, vous savez, je vous expliquais tout à l'heure, c'est... Le pain et le vin. Hein, alors, on boit de l'eau, hein, évidemment. Hein, mais c'est quand même une donnée fondamentale.
C'est-à-dire de l'eau à consommer avec modération.
Oui, et le vin, non, mais dans le vin, on mettait de l'eau aussi. Hein, oui, on coupait son vin. Enfin, voilà. Parce qu'on avait peut-être aussi des vins qui étaient un peu tanniques. Oui, je ne sais pas. Je ne suis pas un spécialiste de cette question-là, donc je ne voudrais pas raconter des bêtises. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'évidemment, les deux éléments de base de l'alimentation, hein, c'est le pain et le vin. Mais on est aussi, il faut se rappeler, très influencé par. Par les croyances religieuses et le pain et le vin, évidemment, hein, qui sont des données fondamentales. Voilà, c'est pour dire que la question des produits est une question intéressante, difficile, complexe aussi, mais dans laquelle on voit des évolutions. Et c'est vrai que quand on lit ces menus de fêtes paysannes, en fait, hein, ou ces menus bourgeois, c'est vrai que... On a alors, autre chose encore, je n'ai pas totalement répondu à votre question sur les menus bourgeois. Je disais alors qu'il y avait des protéines animales. Mais il y a aussi, j'allais dire, une vraie cuisine qui se met en place. Hein. Vous savez que la gastronomie, c'est une invention du 19e. Hein. C'est-à-dire qu'on a vraiment les sauces qui apparaissent, vous voyez. Et on voit bien quand même que même si certaines fois les produits sont locaux, on a des sauces très travaillées, vous voyez, qui ne sont pas des sauces locales. Vous voyez. On a quand même ce souci d'avoir quelque chose qui ne ressemble pas à ce qu'on mange d'habitude. Vous voyez. Donc, des sauces très sophistiquées et même, quelquefois, des produits qui ne sont pas du tout des produits locaux. Hein, c'est un peu une façon de se démarquer toujours. Hein, c'est un élément fondamental.
Et le réseau pour mener toutes ces victuailles qui ne sont pas produites localement, c'était fait, il y avait les chemins de fer à l'époque.
Oui, non, il y a un commerce hein, qui existe. Il y a un commerce d'ailleurs qui se fait dans les deux sens. Hein. Je n'ai pas parlé par exemple des pistoles hein, et des productions de fruits secs en fait. Hein. De brignoles, hein, les prunes de brignoles, qui étaient donc une production de brignoles hein, dans le Var, mais qui était en fait à partir de produits du département, qui étaient donc séchés. Hein, donc on présente notre exposition d'ailleurs des séchoirs hein, séchés pour justement fabriquer ces produits qui étaient des produits très réputés, puisqu'on dit déjà que les rois du XVIe siècle les aimaient particulièrement. Vous voyez. En réalité, les plumes de brignoles n'étaient plus produites depuis très longtemps dans le Var. Hein. C'était les départements voisins qui permettaient justement cette consommation. Donc il y avait évidemment des circuits commerciaux. Je parlais tout à l'heure vous parliez du luxe. Hein, vous aviez des maisons de luxe qui existent toujours d'ailleurs, hein, qui diffusaient des catalogues. Et un bon bourgeois basalpin pouvait commander tout à fait, à la fin du XIXe siècle, sur catalogue, des produits absolument incroyables. Comme aujourd'hui, si vous alliez dans une épicerie fine, vous voyez, à Paris, eh bien, vous auriez tous ces produits, que ce soit du côté des piments, du côté des épices, du côté même des produits, hein, c'est-à-dire poissons, viande, etc. Vous avez des choses absolument... Les truffes, etc. Vous avez des choses absolument extraordinaires que le que celui qui avait des moyens de qui avait des, certains moyens pouvait tout à fait acquérir.
Et dans le département, à Digne en particulier, il y avait des épiceries comme ça ?
Alors vous avez, évidemment, bien sûr, on a des photographies hein, qu'on montre dans notre catalogue, hein, puisqu'on a un petit catalogue qui est diffusé toujours gratuitement et qu'on peut trouver sur notre site internet hein, en téléchargement. Eh bien, on montre des images. Vous avez, devant moi, oui, je l'ai ouvert. Alors, je n'ai pas une épicerie, mais j'ai de la publicité. Hein, la publicité, alors vous allez me dire que tout ça, il faut le faire avec modération, puisque la publicité, alors on est à Sisteron, et sur les monuments de Sisteron, ils ont, vous voyez comme quoi la publicité n'a pas du tout de, hein, d'égard pour les monuments. Donc sur la fontaine de Sisteron, hein, qu'on voit, qui est au centre de la ville, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une belle affiche pour une pour un digestif, hein, on ne va pas citer le nom, parce que c'est des affiches pour un chocolat. Hein, on parlait tout à l'heure du chocolat, alors là c'est... Pareil, c'est un chocolat qu'on connaît bien. Et puis, d'autres produits qu'on mettait dans la bière, hein, des marques connues aussi. Voilà, on a beaucoup de publicité. Et vous avez même, si vous regardez bien...
Pour le café.
Oui, on torifie même des glands doux qui sont torréfiés.
Café de glands doux.
Oui, oui. Exactement, hein, des glands. Alors, me demande pas de quel gland s'agit-il. Mais vous voyez, on faisait des choses tout à fait étonnantes, particulières, pour faire une sorte de café, vous voyez, une sorte de sous-café, j'imagine. Vous voyez, mais voilà, donc il y avait tout à fait des épiceries. La thèse, d'ailleurs, de certains historiens, c'est de dire que la société de consommation commence par l'alimentation. N'est pas totalement le produit de la grande surface ou... Hein, du supermarché ou de l'hypermarché, mais de ces épiceries qui se développent à partir du 19e siècle et qui proposent quoi ? Qui proposent des produits standardisés avec des marques. Vous voyez, je parlais tout de suite hein, du marque de chocolat, par exemple, avec des marques, des emballages très particuliers, un poids donné, c'est-à-dire en fait tout l'inverse de ce qui se faisait avant, qui était le vrac. Avant, hein, auparavant, on achetait en vrac.
Et ça revient.
Vous avez tout à fait raison. Hein. On achetait, donc effectivement, on peut maintenant acheter sa quantité de riz qu'on veut dans certains magasins, et même dans beaucoup de magasins, alors qu'à l'époque, c'est l'inverse. En fait, le phénomène est inverse. On a des belles photos d'épicerie à partir de... Alors, pas trop dans l'appartement, parce que c'est pas toujours le cas d'avoir la photo de l'intérieur, mais on voit bien les épiceries dans le siècle, dans le 20e siècle. On a... les boîtes sont absolument rangées, vous savez, au cordeau. Hein. Il y a une abondance. En fait, on n'a plus que des marques. C'est la publicité, vous voyez. C'est exactement l'image de Sisteron qu'on a devant vous, hein, qui est quand même 1880, quand même, cette image-là. Hein. 1880, 1890. Eh bien, on a exactement ça. Des produits standardisés, une politique de marque, une publicité associée. Hein, on a de plus en plus de publicité qu'on retrouve dans les journaux et dans les affiches. Hein, et donc, on achète un produit, on achète un poids donné, vous voyez, on n'a plus le choix. Voilà. Alors qu'auparavant, on était effectivement dans une économie du vrac. Ça, c'est aussi une vraie évolution qui tend à évidemment développer des pratiques commerciales, aussi bien du côté du producteur que des pratiques de consommation de l'autre côté, qui ressemblent à ce qu'est la société de consommation. Vous voyez, pour vous dire que on est vraiment, c'est pour ça aussi que notre exposition met beaucoup l'accent sur cette période-là, hein, le 19e, la fin 19e, début 20e, parce que là, il y a une vraie mutation. Hein. Mais on le sait bien, on sait que le 20e siècle commence après 1914, enfin après 1918, après la guerre. Hein. Ces mutations commencent, déjà ailleurs, sous le Second Empire, et pour la plupart des départements, en réalité, sous la Troisième République. On a parlé donc longuement du pain, je ne vais pas revenir sur cette question-là, mais je vois j'ai devant les yeux en fait la reproduction d'une affiche hein, de bons de pain à prix réduit hein, qui date de 1920, qui rappelle effectivement l'importance hein, pour les milieux populaires de cette consommation de pain et que ce besoin vraiment pour se nourrir d'avoir du pain. Les vins, je l'ai évoqué aussi, les petits vins de pays. Hein, alors il y avait quand même des vins plus ou moins réputés et parmi ceux-ci, il y avait donc les vins des mets, mais aussi les vins de Riez, dont on disait que le plus grand bien. Il y a donc évidemment le mouton, la viande préférée, hein, comme je l'ai dit. Je ne vais pas expliquer le système de la boucherie, hein, puisqu'on a parlé tout à l'heure de la boucherie 19e, 20e, où c'est en fait un magasin, mais sous l'Ancien Régime, en fait, la boucherie, c'est un fermage, en fait. Hein, c'est-à-dire qu'on met à ferme le droit de vendre de la viande, en fait, dans la communauté. Et donc, c'est le moins offrant, hein, celui qui va proposer les prix les plus bas, qui va remporter le marché et qui, donc, pendant une durée déterminée, en général un an, va proposer aux habitants, hein, il y a un cahier des charges, en fait, et il doit proposer tel type de viande, telle quantité de viande, à tel prix. Voilà. Donc ça, c'est un système un peu particulier qu'on trouve, mais qui est valable jusqu'à la Révolution.
Il y avait des marchés à l'époque aussi ?
Ah oui, bien sûr, évidemment. Bien sûr, ça c'est très très important. Et ça, on les connaît assez bien parce qu'au 19e, on a beaucoup, dès la Révolution d'ailleurs, on a des. La Révolution s'est beaucoup évidemment intéressée, comme l'Ancien Régime, hein, comme au 19e siècle, s'est beaucoup intéressée à la question évidemment de l'alimentation, tout simplement pour des questions. D'ordre social et pour éviter les désordres, hein, liés à. Alors donc on connaît assez bien effectivement les marchés. Sous la Révolution, il y a la loi du maximum qui fixe des prix maximum, vous voyez, pour que tout le monde puisse s'alimenter. Mais au 19e, on a évidemment beaucoup de. Oui, il y a. Vous parlez tout à l'heure des échanges, hein, mais c'est évidemment un élément très important. C'est un double échange, en fait. Hein. Il y a les foires et les marchés. Les marchés, c'est. La ville qui est alimentée par la campagne, hein, c'est les producteurs qui viennent, et puis les foires, hein, qui permettent à une plus grande échelle d'avoir des produits qui viennent d'un peu plus loin. Voilà, donc ça c'est évidemment une dimension importante dans la distribution alimentaire, qu'on n'a pas tellement évoqué nous. Hein. Les huiles, j'ai évoqué la question des huiles de noix et des huiles d'olive, quelquefois on mélangeait les deux. Hein. Il faut penser quand même qu'on est dans une. On parlait tout à l'heure du pain bis, on mélangeait souvent en fait. Hein. C'était une pratique tout à fait banale. Aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à justement garder le respect du produit. Hein, mais voilà. Les produits exotiques, j'ai parlé du café, hein, qui est la première consommation, qui était une consommation qui s'est développée dès l'Ancien Régime, dans les grandes villes, et puis qui ensuite a essaimé. Il y a aussi le poivre, hein, tous ces produits coloniaux qu'on trouve. J'ai évoqué le repas du quotidien avec à partir en particulier des tableaux hein, du musée Gassendi, hein, les deux tableaux qui étaient prêtés. Et dire aussi que, alors, il y avait du personnel qui mangeait peut-être un peu mieux que les autres, c'était les domestiques, car rien ne se perdait. Sur la table du maître, hein, il y avait le repas, il y a les restes. Alors, soit on accommodait les restes, hein, on avait... aussi bien dans tous les milieux, hein, cette capacité-là, soit le reste allait aux domestiques. Et là, on a une image hein, où on voit les domestiques qui sont à table, donc on imagine mangeant les restes du repas, de la veille ou de l'avant-veille, des maîtres.
Et ils mangeaient avant ou après ?
Ah, ils mangeaient. Alors c'est une question intéressante, effectivement. S'ils mangent les restes, c'est plutôt après. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, ils peuvent manger les restes de la veille. Donc effectivement, c'est une question intéressante. On aurait plutôt tendance à penser qu'ils mangeaient avant hein, pour servir leur maître. Hein, voilà. Après, donc, je vous l'ai dit, hein, l'élément fondamental, c'est la bouillie. Alors la bouillie sous toutes ses formes, hein, ça peut être une bouillie, la soupe en fait, hein, ce qui ressemble à une soupe, ça peut être aussi une sorte de crêpe, vous voyez, hein, une sorte d'omelette, vous voyez, qui ressemble à quelque chose de bouilli. Voilà, il y a d'ailleurs ce qu'on appelle le crespou, hein, qui est en fait la crêpe, enfin pas la crêpe, qui est l'omelette. Hein, on met 5-6 œufs, on met tout ce qu'on a, tous les restes qu'on peut avoir et qu'on mange, qu'on peut manger froid. Par exemple, lors des grands travaux agricoles, évidemment, il n'est pas question de rentrer à la maison. Et donc, on part avec son crespou sous le bras, pas un peu consistant, hein, puisque là, on a besoin, évidemment, de calories compte tenu du travail qu'on va faire, qui est une journée très longue, hein, quand même, hein, compte tenu des conditions de l'époque. Le croustillant, j'en ai parlé, donc ça, je ne reviens pas dessus, hein, c'est important. Il y a donc, dans notre exposition aussi, des questions sur les pratiques. Hein, sur les pratiques, c'est-à-dire, en fait, les banquets et repas de fête, hein, qu'on a déjà évoqués, là, et là, on a une belle tablée, vous voyez, justement, d'hommes avec une belle pièce montée au milieu, on aurait imaginé un mariage, vous voyez, hein, où, effectivement, les mariés faisaient face à cette pièce montée. On a mis, d'ailleurs, une petite image aussi, qui est une image un menu qui était servi grâce aux libéralités d'un prêtre aux blessés militaires pendant la Première Guerre mondiale à l'hôpital à Digne. Hein, donc un repas très amélioré, évidemment, parce que ce n'est pas du tout ce qu'ils mangeaient à l'époque. Chose intéressante, c'est le casse-croûte et les pique-niques. Le casse-croûte, c'est la version populaire. Hein, on casse la croûte sur son lieu de travail. Le pique-nique est une pratique à l'origine aristocratique. On mange, en fait, c'est une économie des loisirs, hein, du temps libre. Pour pique-niquer, il faut avoir du temps libre. Or, qui a justement cette disponibilité? Ce sont évidemment les classes aisées, comme on disait à l'époque. Et donc, on a le développement de cette pratique qui est anglaise, hein, d'origine, où on va donc... On va se promener, en fait, tout simplement, on étend un linge, une nappe sur le sol, et on sort, évidemment, tout ce qu'on a préparé, hein, en général, et dans une belle vaisselle, évidemment. Et les photos qu'on a, hein, qu'on a mis d'ailleurs en couverture, vous en avez la couverture, c'est un pique-nique. Hein, regardez, alors évidemment, les auditeurs ne peuvent pas, c'est difficile d'écrire une image.
Ah, mais je mettrai la photo sur le site.
Voilà, hein, c'est vraiment une image très intéressante, un pique-nique, j'allais dire, plutôt année avant la Première Guerre mondiale, vous voyez, peut-être entre 1900 et 1914. Une belle image de la belle époque, hein, comme on l'appelait à l'époque. Et donc, effectivement, je regarde cette femme au premier plan avec cette coiffe absolument extraordinaire. Hein, on n'imagine pas aujourd'hui faire des pique-niques, car le pique-nique, comme le reste, c'est démocratisé. Et aujourd'hui, évidemment, c'est une pratique tout à fait pratiquée encore dans les catégories aisées, mais aussi, évidemment, très largement utilisée, pratiquée par les catégories... je crois qu'il n'y a plus, alors évidemment, il y a la manière de manger, peut-être ce qu'on mange, et la manière dont c'est servi, mais tout le monde pique-nique. Voilà, c'est vraiment une pratique devenue tout à fait ordinaire. On a d'ailleurs un très beau pique-nique de curé. On appelle ça un pique-nique de curé. En fait, ce sont les prêtres qui vont pique-niquer au-dessus de Digne, hein, montant à la chapelle, et ils demandent donc, ils achètent, hein, donc comme quoi il y a des vendeurs à Digne, ils achètent, et alors ils mangent des choses qu'on ne mange pas, en fait. C'est un pique-nique qui est du début du XVIIIe siècle, début du XIXe, hein, donc on est après la Révolution, pendant la période de la Restauration, et ils consomment du saucisson. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt rare, et du beurre. Or, le beurre est totalement, quasiment, une consommation inexistante dans le département. Hein. On est plutôt, évidemment, je l'ai dit, le saindoux et l'huile. Voilà. Donc, le beurre est sans doute... alors, vous imaginez, hein, l'association, hein, vous connaissez, l'association beurre et charcuterie, on est dans une économie, évidemment, très, très riche, où là, on mange ce que le commun ne mange pas. Voilà.
Même la nourriture est riche.
Voilà, exactement. Oui, mais c'est vraiment ça. Vous savez, c'est un peu une vision caricaturale, mais c'est la maladie du 19e, du bourgeois, c'est la goutte, et qui est due à un excès, évidemment. Voilà. Je n'ai pas parlé du repas des voyageurs, car il y a... il se développe, en fait, à partir du 19e, et surtout à la fin du 19e et au début du 20e et les années 20 et 30 avec la route Napoléon, tout un réseau d'hôtels-restaurants, hein, de quelquefois très luxueux. Hein, là, on a une image d'un très bel hôtel qui est l'Alpe Hôtel à Beauvaisé, hein, qui est vraiment un magnifique bâtiment. On a des photos d'ailleurs de l'intérieur aussi, hein, qui est un hôtel de standing. Eh bien, on a aussi un tourisme, hein, qui se développe, et ce tourisme, évidemment, se double, en fait, du repas gastronomique, en fait. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, on va non seulement se promener, visiter une région, on a des descriptions, hein, pour des urbains, hein, qui souvent vont à la campagne, en fait, hein, vont, et on associe, en fait, cette visite, évidemment, à un bon repas. Et donc là aussi, des menus, hein, de ces hôtels-restaurants qui sont tout à fait riches, parce que ça fait partie de la visite, vous voyez. Et c'est d'ailleurs une pratique qui est plutôt restée, d'ailleurs. Hein, voilà. J'ai parlé aussi des prunes séchées, hein, donc des fameuses pistoles. Mais il y a aussi les amandes. Hein, on consommait aussi beaucoup d'amandes. J'ai devant moi un menu qui date de 1097. Alors, on va peut-être le lire. Hein, c'est un menu qui a été servi... à un hôtel qui était très célèbre en son temps, qui était l'hôtel Boyer-Mistre, à Digne, hein, qui était donc situé sur le boulevard Gassendi. Alors ce qui est intéressant, c'est que déjà on est sur un papier publicitaire, hein, comme vous pouvez le voir, on a une femme qui fait la publicité pour un beurre dont on peut citer le nom, parce que je pense qu'il n'existe plus, c'est le beurre de Corneux. Alors, c'est évidemment extra-local, ça n'a évidemment rien à voir avec le département.
Haute-Saône.
Hein, c'est indiqué d'ailleurs sur le... Hein,
Haute-Saône.
C'est en Haute-Saône, c'est près de Grès, hein, donc, qui est une sous-préfecture de la Haute-Saône. La préfecture étant Vesoul, comme tout le monde le sait. Voilà. Eh bien, ce beurre de Corneux... alors, le beurre est important parce qu'il rentre dans la préparation des grands plats. Évidemment, hein, très important, le beurre. Voilà. Mais je l'ai dit, hein, le beurre n'est pas une consommation commune. Ce menu, donc, qu'est-ce qu'on mange? Eh bien, on mange d'abord un potage. Alors, potage julienne. Ensuite, on a le fameux poisson. En l'occurrence, un excellent poisson, puisqu'il s'agit de loup avec une sauce au capre. Après, on va rentrer dans la série de la viande, avec des côtelettes à l'anglaise, puis une volaille au riz. Riz qui était produit depuis très longtemps sur le littoral méditerranéen, dès l'Ancien Régime. Hein, vraiment, c'est une production... voilà. Des choux-fleurs sautés. Et on n'a pas fini avec la viande, parce qu'on revient sur des grives rôties. Et on termine avec une crème au citron et un dessert dont il n'est pas dit de quoi il s'agit. Voilà, là vous avez vraiment... Alors c'est un dîner un peu particulier, hein, ce n'est pas le menu ordinaire, pourrait-on dire, mais vous voyez, pour vous donner, on est en octobre 1897, et on a vraiment l'abondance, hein, de produits, avec quand même un poisson et une volaille, une viande... Et les grives que j'allais oublier, évidemment.
Deux volailles.
Oui, en fait, ça fait deux volailles, dont une sauvage, en fait. Hein, voilà. Donc, on a aussi, on le voit, hein, le produit de la chasse. Hein, c'est très important aussi dans les menus de fête ou les grands repas. Hein, c'est important. Cette dimension-là est importante aussi. Après, donc, dans notre exposition, on a voulu, mais comme il nous reste quelques minutes, je voudrais quand même dire que lors de l'inauguration, on a bénéficié de l'aide et du soutien et de la participation de deux établissements scolaires, enfin, l'un scolaire et l'autre de formation. Le premier, c'est le lycée hôtelier de Sisteron, qui est venu, comme les apprentis du centre de formation des apprentis de Digne-les-Bains, sont venus proposer des plats. Alors, on leur avait demandé, hein, la commande, c'était de reprendre un peu des produits anciens, l'esprit des recettes anciennes, et de nous proposer, évidemment, il est impossible de manger, les produits ne sont plus les mêmes, les recettes ne sont plus les mêmes, les manières de cuisson ne sont plus les mêmes, mais de nous proposer, en fait, une interprétation, en fait, de ces plats et produits anciens. Et je voudrais vraiment souligner leur importance dans ce projet, parce que, outre l'aspect évidemment pédagogique, hein, qu'on peut y discerner, puisqu'ils ont eu à servir quasiment 140 personnes, hein, par des petits plats préparés par leurs soins, mais dire aussi que le succès que remporte cette exposition, c'est évidemment en grande partie grâce à leur travail. Je voudrais vraiment les en remercier publiquement. Ce projet, en fait, repas des humbles, repas des riches, a une dimension aussi éducative. On l'a d'ailleurs inauguré lors de la semaine du goût. Vous savez, la semaine du goût, c'est une semaine qui a pour objectif de sensibiliser les lycéens, les étudiants, les collégiens et les enfants du premier degré, hein, donc des primaires, à justement bien consommer. C'était aussi une façon de se situer, en fait, vous savez, dans l'UNESCO a classé au patrimoine mondial de l'humanité le repas gastronomique, hein, le repas ce repas qui ne définit pas de plat en réalité, hein, qui est vraiment la pratique qui associe à la fois le caractère amical, familial, vous voyez, du repas, c'est-à-dire qu'en fait, je rappelle, hein, que copain vient de compain, c'est celui avec qui on partage le pain. Hein, donc cette dimension sociale, dimension amicale qu'on peut trouver, mais aussi donc des produits. Je relisais pour justement cette exposition le texte. C'est bien l'idée même du texte, c'est de cuisiner des produits de préférence locaux. Hein, c'est très important. Qu'on a voulu faire aussi dans ce projet. Donc ce projet aura aussi des déclinaisons pédagogiques dans les cantines du département, en particulier les collèges. Et puis, cette exposition est itinérante, hein, c'est-à-dire qu'on peut la prêter tout au long de l'année, voire dans les années futures, pour justement diffuser, en gros, la bonne parole.
Sur Christophe Lavadi, Histoire d'archives de ce jour se termine.
Voilà, écoutez, merci à vous.
Merci à vous. Rendez-vous le 17 novembre prochain.
Exactement, oui. Donc, à la prochaine fois. Et puis, j'espère que nos auditeurs auront recouvré l'appétit.